Je vous ai déjà raconté ici des histoires d'animaux que l'on a traînés en France entre le XIIe et le XVIIIe siècle devant des tribunaux. Eh bien, voici deux autres histoires du même tonneau. Une histoire de Charançon excommunié au XVIe siècle en Savoie et une histoire de brebis sodomite au XVIIe siècle en Auvergne. Deux histoires que je tire droit d'un livre de Chantal Knecht qui paraît chez Plon, Des animaux au prétoire. Elle sera là tout à l'heure. J'ai écrit ces histoires avec Bettina Servant, réalisation signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Du XIIe au XVIIIe siècle, dans l'Europe chrétienne et rurale, des hommes ont intenté des procès à des animaux. Des animaux domestiques pour la plupart, des vaches, des brebis, des juments, des chiens, des chats, des coqs, mais pas que. Ils ont aussi traîné devant des tribunaux des limaces, des papillons, des rats, des souris, des chenilles. Et au XVIe siècle, en Savoie, des charançons, des insectes, qui se sont retrouvés dans le box des accusés. Nous voilà à Saint-Julien-de-Maurienne, dans le sud-ouest de la Savoie, un matin de février 1545. Jean Testa, qui est paysan, enfile une veste en peau de brebis par-dessus sa chemise. Et comme tous les matins depuis plusieurs mois, il file droit vers sa vigne, pour y planter des boutures de cèpe de vigne. Sa vigne produit un bon vin blanc, ma foi, doux et sucré. Le seigneur du château en raffole, et l'évêque aussi. Il en commande plusieurs tonneaux par an. Et il en offre à tous ses invités, venus de Rome ou d'autres régions. Son vin se vend bien, et même de mieux en mieux. Et Jean Testa se frotte déjà les mains. D'autant qu'il vient de marier son fils Antonin, son unique fils, les six autres sont des filles. Avec Antoinette Duprat, la fille du vigneron voisin, une aubaine. Une fois réunis les deux vignes, ça fera un domaine de près de 6 hectares. Mais le malheur frappe au mois de mai, peu de temps après Pâques. Un matin, Jean Testa et les siens arrivent dans leur vigne. Adieu le bon vin! Les vignes sont envahies par des cohortes de petits insectes grouillants. Des charançons, que certains appellent des emblevins ou des verpillons, peu importe. Ce sont des animaux terribles. Leurs larves, des sortes de gros vers, se mettent à la fois dans les racines et dans les bourgeons. Et les bourgeons tombent, et ils se dessèchent.
« Mon Dieu, le ciel nous punit de nos péchés. Qu'est-ce qu'on va devenir ?»
Jean n'est pas le seul à se lamenter. Tous les vignobles du village sont touchés. Tous les paysans sont abasourdis de voir leur travail anéanti en quelques heures. Alors ils pleurent et ils prient, ils implorent la Vierge Marie. Que faire? Que faire? Jean Testa décide de rassembler chez lui, dans son cellier, tous les vignerons du village. Une réunion du désespoir.
Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille voir le syndic. Et puis c'est tout.
Le syndic, en ce temps-là, représente la justice dans la commune. Celui de Saint-Julien s'appelle Pierre Ducol. Jean Testa va le voir sur le champ.
Nous autres, pauvres paysans, on est abattus par ces maudits insectes qui dévorent nos vignobles. C'est le fruit de notre travail. Il vous faut faire quelque chose. Il faut aller voir l'évêque en notre nom et qu'il nous délivre du mal pour que ces animaux décampent nos vignes. Faites-le, je vous en supplie.
Le syndic en réfère immédiatement à l'official de Saint-Julien, c'est-à-dire le juge désigné par l'évêque pour rendre la justice ecclésiastique. Il se saisit du dossier, mais ça le laisse songeur.
Mais enfin, que faire? L'Église pour arrêter ce fléau. Après tout, ces insectes ont bien le droit de se nourrir, comme tout être vivant, comme toute créature de Dieu. Et si ce fléau était voulu par la puissance céleste, et si ces vignerons payaient après tout pour leur péché, Je sais qu'ils sont souvent réticents à payer la dîme du vin, et réticents à accomplir leurs devoirs religieux. Alors en attendant, je propose qu'ils fassent des processions. Des processions expiatoires, et puis qu'ils payent leur dîme. L'année prochaine, ils n'auront pas de vin, ils ne paieront rien. Et ils doivent payer maintenant.
Et voilà comment les vignerons de Saint-Julien se retrouvent pris au piège. Au mois d'octobre, c'est-à-dire au moment où les vendanges n'ont pas lieu, l'official envoie un prêtre sur place pour constater les dégâts et dresser un rapport. Le curé débarque dans les vignes en surplis et étole violette. Et il les asperge d'eau bénite.
Insecte maudit, créature du diable, démons invertébrés, je vous ordonne de ne plus dévorer nos bons raisins et de décamper de ces nobles vignes. In nomine patri, et filii, et spiritus sancti.
Mais ça n'arrête pas les charançons. En revanche, malgré la misère, les vignerons sont bien obligés de payer leurs dîmes et leurs aumônes, et d'observer le jeûne et de s'agenouiller devant les oratoires, faire don de leurs larmes au Seigneur. Le 22 janvier 1546, d'un coup, leur désespoir devient fureur. Les vignerons de Saint-Julien, Jean Testa en tête, se ruent à l'église et ils empoignent la statue en bois de Saint-Vincent.
Allons donc l'enfermer dans le cellier, hein? Enfermons notre saint patron, il nous a pas protégé des bêtes.
Ils sont en rage et donc ils enferment la statue pendant 4 mois avec leur tonneau pour se venger. Ils sont à bout. Au début du printemps suivant, un an donc après l'arrivée des coléoptères, le syndic Pierre Ducol décide que l'affaire n'a que trop duré. Il envoie une requête au juge pour réclamer que les charançons soient excommuniés. Nous, vignerons de Saint-Julien, sommes désespérés de voir le fruit de notre travail réduit à néant. Puissiez-vous intervenir auprès de la puissance céleste pour lui demander de ne pas favoriser ces insectes plus que sa progéniture humaine? Nous demandons que les charançons soient mis en dehors de l'Église et qu'ils soient excommuniés. Que le Seigneur soit avec nous. L'official de l'évêque répond par un jugement cinglant.
Les vignerons de Saint-Julien ne trouveront justice que s'ils se libèrent de leurs péchés par des prières ferventes et souvent répétées et par leur participation aux cérémonies ainsi qu'au pèlerinage. Quant aux insectes incriminés, ce sont aussi des créatures de Dieu, et on ne peut pas les chasser sans offenser notre Seigneur. En tout cas, ils ne seront pas excommuniés, que ce jugement fasse loi.
C'est un jugement, donc c'est plié. Les charançons ne seront pas excommuniés. Blanchis et épargnés par l'official de Monseigneur l'évêque, finalement les charançons sont partis d'eux-mêmes, au début de l'été. Ils sont allés s'installer ailleurs, dans les vignes de Bourgogne. Et là-dessus, 41 années s'écoulent. Et nous voilà en 1587, dans le même village de Saint-Julien de Maurienne. Jean Testa et sa femme et ses 7 enfants sont morts depuis longtemps. Et c'est son petit-fils, fils d'Antonin, qui s'appelle Jean, lui aussi, qui a hérité du vignoble familial qui l'a fait prospérer. Et 41 années plus tard, les Charançons sont de retour, au même endroit. Et la réaction des vignerons est identique en tout point.
Allons voir l'official !
Et les voilà qui débarquent gonflés de colère, accompagnés du syndic François Avenet, à l'évêché de Saint-Julien. Ils s'installent tous dans l'église qui fait office de tribunal. Et l'officiel se met dans un grand fauteuil, sous la grande croix.
Silence, je vous prie. Silence. Monsieur le syndic, je vous écoute. Monsieur le juge, si nous vous présentons aujourd'hui devant vous, c'est en raison de la gravité immense du malheur qui s'est abattu sur nos protégés. Ce sont des braves gens. Ils ont toujours été fidèles à leurs devoirs religieux. Et c'est pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi le ciel les frappe si injustement. Les animaux sont de retour, et eux qui n'avaient pas été excommuniés par la Sainte Église, par le passé. Dès lors, nous, syndics, vous demandons de nous autoriser à reprendre l'instance mue précédemment.
Il veut qu'on reprenne la procédure d'excommunication des Charançons. En appel, en quelque sorte, 41 années plus tard. L'official se racle la gorge. Il ajuste les manches de sa robe.
« Messieurs, j'ai entendu vos griefs. Le fléau que vous décrivez ne peut pas nous laisser indifférents. S'attaquer à notre bon vin, enfin comment est-ce possible? Le vin n'est-il pas la boisson de la Bible? Les noces de Cana, la Seine, la boisson qui emplit le calice? Notre pape Innocent VII ne soignait-il pas ses maladies par des cures de vin? Donc je pense qu'une enquête sérieuse s'impose. Et je désigne Guillaume Fromentin en tant que commissaire. Et comme il est logique que la partie adverse, c'est-à-dire les dénommés Charançons, qui sont des bêtes de Dieu après tout, puissent assister eux-mêmes à l'expertise, je nomme Antoine Filial comme leur avocat.
Le second procès contre les Charançons s'ouvre le 6 juin 1587.
Monsieur Filial, en tant qu'avocat de l'accusé, nous vous écoutons. Monsieur le juge, j'exhorte la cour de ne pas s'acharner sur ces pauvres bêtes du bon Dieu, qui n'ont fait qu'obéir à la loi naturelle et ne cherchent qu'à survivre. Et j'ajoute qu'aucune excommunication, aucune censure, n'est en vérité de nature à les affecter. Alors que disent les livres saints? Voilà que je vous ai livré les plantes de la terre, ainsi qu'elles vous servent d'aliment, et soient la pâture de tous les animaux. Je demande donc à la cour de déclarer la demande nulle et non avenue. Je vous remercie.
Le juge rend son jugement une semaine plus tard.
Bien. Nous avons décidé de choisir la voie de la sagesse. Nous préférons une solution à l'amiable. Notre intention est de donner aux Charançons une nouvelle pièce de terre qui soit loin des vignobles pour qu'ils égitent et subsistance.
Mais l'avocat Filial, l'avocat des Charançons, est contre.
Enfin, je me suis rendu moi-même pendant la suspension dans les champs qu'on prétend affecter aux insectes. Ils sont stériles. Ils sont stériles. Des forêts, des ronces, des buissons, des cailloux, de la terre morte sans fruits. Je vous conjure, monsieur le juge, de débouter mes adversaires de leur demande. Tout cela est absolument faux. Vous êtes l'avocat du diable. Enfin, le lieu qui leur a été attribué est paradisiaque. Ça n'est que justice.
Et là, l'official prend une dernière fois la parole.
Bien. Eh bien, puisque les Charançons ne veulent pas obéir à l'ordre divin, je prononce leur excommunication. Cette sentence sera annoncée publiquement dans nos églises. Qu'ils soient maudits et anéantis avec l'aide de Dieu. La séance est levée.
Après l'excommunication des Charançons, voici l'histoire d'une brebis à Rion, en Auvergne, au début du XVIIe siècle. Elle commence le mardi 28 avril 1606, dans le bureau du juge de Rion.
Exposez votre nom, monsieur, ainsi que votre adresse et votre date de naissance.
Oui, monsieur le juge. Pierre Gauthier. J'ai 26 ans. Et je suis laboureur à Rion depuis 10 ans. Et voilà, je suis marié. Ouais, je prends d'enfants.
Le gars vient de passer 3 jours en prison. Il est complètement abattu.
Monsieur Gauthier, connaissez-vous la brebis dont il est question dans cette affaire?
Oui, monsieur le juge, oui. On la remarque, c'est la seule noire du village. Elle est bien belle. Et elle appartient à mon voisin.
J'ai ici, monsieur, des dépositions qui vous accusent d'un crime diabolique. Vous avez, monsieur, couvert cette brebis noire. Et plusieurs fois. Vous êtes accusé de copulation diabolique avec cette femelle. C'est un crime. Et c'est un péché que l'on ne peut pardonner. Mais enfin, monsieur, à quoi vous sert donc votre femme? Et pourquoi diantre vous êtes-vous marié, hein? D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même à l'instant, vous n'avez pas d'enfant. Et cela s'explique puisque vous préférez cette bête à laine à votre femme, n'est-ce pas?
Ah non, monsieur le juge, c'est pas vrai. J'ai rien fait, je suis innocent. Et elle aussi?
Ouais. Commencez donc par demander pardon à Dieu, je vous prie. Vous avez commis un péché irréparable. Vous avez une inclination sodomite, monsieur, et seul Dieu pourrait effacer votre crime. Depuis votre mariage, monsieur Gauthier, avez-vous fréquenté notre église? Assister à la messe du dimanche?
Ah non, non. Moi, c'est ma femme qui va à confesse, pardi. Elle a des choses à se faire pardonner, elle.
Garde! Reconduisez donc ce monsieur en prison.
On ramène Pierre Gauthier dans sa cellule sombre et humide, à l'isolement. Son crime pourrait provoquer des émeutes. Et il est interdit de visite. Mais qui pourrait venir le voir? Sa femme, ses voisins, ses amis, ils l'accusent tous. Cinq jours plus tard, le juge fait venir un par un les témoins dans son bureau. Pierre Gauthier est là, dans un coin de la pièce, tout recroquevillé. Le premier à témoigner est écuyer et conseiller du roi. Il s'appelle Melchior Gaspard du Trollet.
Jurez de dire toute la vérité, monsieur.
Je le jure, monsieur le juge.
Bien, je vous écoute.
Eh bien, cela s'est passé il y a un mois environ.
Un dimanche matin vers 9h, alors que nous sortions de la Sainte-Messe avec ma femme et mes deux enfants. Et j'ai vu cet homme-là, en veste à carreaux et bonnet rouge, contre l'une des façades de l'église. Il était en train de s'accoupler, oui, de s'accoupler avec un mouton noir, près de l'église, un dimanche matin. C'est une infamie. Tout le monde est scandalisé. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le juge.
Le deuxième témoin s'appelle Pierre-Jacques Mautret. Il est marchand de vin à Rion et lui aussi était à l'église.
Vous savez, monsieur le juge, je suis un commerçant bien connu et les gens me parlent. Et je compte plus le nombre de clients qui m'ont rapporté les mêmes faits. Je les compte plus. Vous pouvez me croire, monsieur le juge. Certains m'ont dit qu'ils s'étaient accouplés avec un cheval. Et d'autres avec une chienne. Enfin, de telles pratiques honteuses peuvent ruiner notre cité. On n'a pas le droit de copuler avec une bête.
Le troisième témoin est le propriétaire de la brebis, Étienne Nautel. Devant le juge, il est un peu impressionné.
Oh, monsieur le juge, je suis bien d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Mais faut pas condamner la bête. Elle est innocente, la bête. C'est elle qui subissait ses assauts. Et si elle bêlait, c'est qu'elle protestait. Je le sais bien, ça. Je sais bien ce que ça veut dire quand une bête bêle d'une manière ou d'une autre. Vous savez, monsieur le juge, c'est une bête bien utile. Et elle est jeune. Elle peut encore servir quelques années. Et elle donne sa viande, son lait, des vêtements chauds grâce à sa laine. La tuer serait une très grosse perte pour moi et pour ma famille. C'est pas parce qu'un homme a péché avec un animal que celui-ci doit payer pour son crime. Gautier est le seul responsable. Et d'ailleurs, il m'a dit plusieurs fois que c'était son goût. Il m'a même dit qu'il préférait la brebis noire à sa femme. C'est vous dire. J'ai menacé de le dénoncer plusieurs fois. Mais il m'a supplié. Il m'a promis qu'il recommencerait pas. Et voilà quoi, monsieur le juge. Monsieur le juge, rendez justice à ce pauvre animal. Ne le tuez pas. Je vous en supplie. Oui. Mais ce n'est pas l'agneau de Dieu, hein, que nous jugeons aujourd'hui. C'est une brebis lubrique et perfide qui oublie sa propre nature et les mâles de sa famille. On va songer ce que deviendrait le genre moutonnier si toutes les brebis agissaient de la sorte.
Vient ensuite l'aubergiste Thomas Bonamy.
Oh, moi c'est sa femme. Et elle m'a tout raconté un soir à l'auberge. Depuis qu'il fréquente l'animal, il remplit plus son devoir conjugal. Elle l'a surpris deux fois avec la brebis, près du ruisseau. C'est un vicieux. Faut le condamner à mort. Et l'homme et la brebis.
Je vous remercie, monsieur. Faites entrer maintenant la femme de l'accusé.
Elle s'appelle Claudine. Claudine Gautier n'est montée. C'est une petite femme aux cheveux roux, bien campée sur ses pieds. Quand elle entre dans le bureau du juge, elle jette un regard haineux à son mari.
Monsieur le juge, quelle femme peut souffrir plus que moi? Je suis la risée de toute la ville. J'aurais dû me méfier. Mon mari n'a jamais été trop fort pour ce qui est du devoir. Du devoir conjugal. Et d'ailleurs, tout jeune, il voulait pas se marier. La dernière fois, c'était il y a 5 ans. Je me souviens qu'il était pas trop habile, hein. Il est impuissant, monsieur le juge. Comment voulez-vous avec ça avoir une progéniture ?
Bien, madame, je vous remercie. Le procès est suspendu. Ramenez monsieur Gauthier en prison.
Le juge nomme ensuite deux experts chirurgiens à qui il demande d'examiner le corps de l'accusé et qui déclare dans un procès verbal « Monsieur Gauthier a visité et habité la brebis ». Et puis Pierre Gauthier finit par avouer « Oui, il a effectivement copulé avec la brebis noire à plusieurs reprises ». Et le 30 mai 1606, le juge de Rion rend sa sentence.
« Monsieur Gauthier, vous êtes convaincu du crime de sodomie envers une brebis noire appartenant à Étienne Nautel, berger. Vous êtes donc condamné à être attaché à un poteau planté sur la grande place de Rion et à y être brûlé vif, ainsi que la brebis noire. Tous vos biens seront confisqués au profit de la ville et du roi. »
Le jour de l'exécution, toute la ville de Rion est là, sur la place du marché, dans une ambiance bon enfant. Il y en a qui dansent et d'autres qui chantent en hurlant.
Mort au diable! Mort au sodomite! Au feu, la brebis!
On commence par pendre Pierre Gauthier à la potence, et ensuite deux gardes traînent la brebis juste en dessous sur une sorte d'escabeau. Et un bourreau l'étrangle d'un geste bref. Ensuite, les deux cadavres, celui de l'homme et celui de l'animal, sont jetés au sol. On lance sur eux des bouts de bois et de la paille. Et le bourreau y met le feu. Et les gens autour hurlent de joie. Et les cendres de ces deux êtres maudits sont ensuite enfouies profondément dans la forêt. Je vous ai raconté aujourd'hui deux procès d'animaux qui ont eu lieu dans notre pays. Chantal Knech, votre livre est mon inspiration, il s'appelle « Des animaux au prétoire » chez Plon. Combien de procès d'animaux avez-vous recensé dans l'histoire de France ?
Oh, il y en a plus d'une centaine depuis le XIIe siècle, mais ce sont par la suite, entre le XIIIe et le XVIIIe siècle en gros, qu'on trouve ceux qui sont le plus documentés.
Alors, dans cette histoire de brebis sodomite, et avant cela, celle de Charançon excommunié en Savoie, quelle est la part absolue de certitude sur quel document repose votre récit ?
Alors, pour les procès d'animaux les plus documentés, c'était essentiellement des juristes au XIXe siècle qui avaient beaucoup travaillé dans les archives judiciaires au préalable, et qui racontait ces histoires, soit à travers des petits fascicules, soit à travers des livres de sociétés savantes. Il y avait par exemple les sociétés d'ethnologie ou d'archéologie, il y avait la revue des Deux Mondes.
Donc c'est un travail intellectuel de recensement des pratiques
Exactement.
Judiciaires à l'époque donnée.
Exactement, avec plus ou moins de documentation, et évidemment pour ce livre j'ai pris les archives les plus documentées qui existaient, ce qui veut dire que les deux histoires que vous venez de raconter et brillamment illustrées, ce sont des personnages, des faits, des époques réelles, les dates sont réelles, précis, les verdicts, les plaidoiries, les jugements sont réels et sont basés vraiment sur des récits historiques.
On trouve quel type de documents ? Donc on trouve des rapports, des comptes rendus oui. Précis, réalisé à l'époque.
Ah oui, c'était comme des espèces de tirés, voilà, la truie a fait ça, puis après elle a fait ci, puis c'est cela. Donc l'intérêt, c'était un tout petit peu, selon les procès d'animaux, de légèrement les romancer, sinon c'est trop sec, quoi, c'est pas... Mais c'est vraiment basé sur des récits historiques réels.
Alors le procès des Charançon à Saint-Julien-de-Maurienne, en Savoie, il est intéressant parce que c'est un procès
ecclésiastique.
Oui.
Il ne s'agit pas de justice civile, mais de justice religieuse. C'est la seule qui exerce à l'époque où il y a deux justices qui fonctionnent en parallèle.
Il y a trois types de procès. Hein. On le voit. Il y a les procès laïques où on prenait les animaux à titre individuel, par exemple un porc, une vache, une jument, etc. Et là, on pouvait les appréhender, comme on disait à l'époque. On les mettait en prison, on les jugeait, etc. Mais là, on était alors typiquement dans la France rurale et chrétienne. On avait affaire à des masses d'animaux. Oui. Donc, quand on a affaire à des masses d'animaux, on peut quand même pas les prendre un par un, ni même 10 par 10, ni même 100 par 100, et on peut pas les mettre dans un tribunal. Donc, encore une fois, les textes étaient les références bibliques, encore une fois. Et là, la justice ecclésiastique s'exerçait vraiment de plein gré. Parce que, d'une part, il y a une chose qui est très importante dans ces procès d'animaux, en général, c'est que c'était des procès exemplaires. On donnait vraiment l'exemple aux gens. Mais alors là, comme on avait affaire à des paysans, quand il y avait des masses d'insectes qui dévastaient les récoltes, c'était quand même important parce que ça faisait partie des grandes peurs de l'époque, hein, les inondations, les famines dans ce cas précis, ou les grandes maladies comme les pestes, tout ça. Donc, et que faire? Parce que la science agronomique n'existait pas, il n'y avait pas de pesticides. Donc on les faisait pareil, avec cette espèce de parité entre l'homme et l'animal. On les mettait pas dans un tribunal, mais on les faisait représenter par un avocat. Donc il y avait des plaignants qui étaient les laboureurs, les paysans, etc., disant c'est fini, on n'a plus de récolte, fini. Et avant de sanctionner les animaux, on incriminait les paysans, on leur donnait un peu comme s'ils venaient à confesse, c'est-à-dire il fallait d'abord qu'ils passent par des processions, des prières, etc.
On vérifiait ensuite, au passage, un, qu'ils avaient bien payé leur dîme, et deux,
qui va se payer, voilà.
Et deux, qu'ils allaient bien à la messe,
qu'ils allaient bien à messe, que les femmes arrêtaient de jurer parce qu'elles juraient trop, c'était inadmissible, qu'ils devaient payer la dîme, qu'ils faisaient des processions sur 3 jours, etc. Donc une fois qu'ils avaient fait tout ça, c'est-à-dire en gros ils obéissaient à la justice divine, quoi. Ils obéissaient à l'évêque, l'évêque c'était le représentant de la justice ecclésiastique. Une fois qu'ils avaient fait ça, eh ben on décidait qu'il fallait excommunier les animaux, ou les exorciser, ou leur jeter un anathème.
Alors
la plupart du temps, c'était l'excommunication.
Alors justement, ce qui est intéressant dans cette histoire de Charançon, c'est qu'on a deux verdicts qui, en vérité, à mon sens, hein, à 41 années d'intervalle, procèdent de la même logique. C'est-à-dire que l'évêque défend une foi du charbonnier pour ces gens qui, pour la plupart, sont analphabètes. Lui, on voit bien, et au premier, au deuxième verdict, qu'il n'en croit pas un mot de tout ça. La première fois, il dit, enfin, c'est pas possible, ça tient pas debout d'excommunier des Charançons. Et puis, la deuxième fois, d'une certaine manière, il dit, OK, si ça vous fait plaisir, je les excommunie. C'est ça?
Oui, puis c'est une affaire de famille, parce que, dans le fond, ça se passait tout le temps comme ça. Là, sauf que ça a été vraiment précisé d'un petit-fils et son grand-père. Mais bon. Alors, l'excommunication, c'était quand même incroyable, parce qu'encore fallait-il, quand on excommunie un chrétien, ça veut dire qu'il appartenait à la communauté chrétienne.
Donc là, il faut dire que les Charançons étaient chrétiens.
Ils étaient chrétiens et ils devaient être baptisés. Donc on les excommuniait. C'est tout l'absurde de la situation. Mais ça révèle des croyances.
Au début du XVIIe siècle, on juge donc une brebis avec l'homme qui l'a sodomisée. Et on considère, et c'est ça qui est ahurissant, qu'elle a sa part de responsabilité. On va même jusqu'à dire à un moment donné qu'elle néglige les mâles de son espèce au profit de cet homme.
Voilà, c'est exactement calqué sur le modèle humain. On reproche à l'homme de ne pas honorer sa femme sur le plan sexuel. On reproche à la brebis de ne pas honorer, pareil, le bouc ou je ne sais quoi. Chez d'autres animaux, c'est exactement pareil. Là, c'est intéressant parce que dans les crimes comme ça, sexuels, dits de bestialité ou de sodomie, là, c'est le crime absolu. C'est l'infamie la plus totale. C'est impardonnable, ça existe depuis des millénaires, ça existe aussi maintenant, la zoophilie existe, bien sûr.
Elle existe toujours, elle est toujours aussi taboue d'ailleurs.
Aussi taboue, mais il me semble qu'il y a eu des histoires récemment où juste l'homme avait quelques mois de prison de sursis, parce qu'il avait abusé, je sais plus. Là, c'est le crime absolu.
Alors la brebis est comparée avec l'homme au nom d'un seul et unique argument, qu'elle est aussi une créature de Dieu. Et c'est très intéressant de voir que dans cette interprétation, au XVIIe siècle, des textes chrétiens, on applique une lecture absolument littérale, et donc s'il y a écrit dans la Bible que les animaux sont les créatures de Dieu, alors ils seront jugés comme les hommes.
Voilà, de toute façon, l'animal, dans ces histoires de procès d'animaux, l'animal est toujours coupable. Le propriétaire n'est pas responsable. Jamais, jamais, jamais.
Oui, il ne comparait pas. Le propriétaire, il est victime même.
Sauf dans ce cas-là de sexualité avec un animal, ils sont tous les deux coupables, forcément, ouais, puisqu'ils ont tous les deux participé à cette sexualité perverse, comme il disait. Où, le terme exact de l'époque, c'était habitation charnelle. Donc, c'est assez amusant.
Ah, moi, il y a un truc qui m'a bien plu, c'est que c'est un mouton noir.
Oui.
Et que le mouton noir est une expression courante. Le hasard fait que c'est un mouton noir, ou il est décrit comme un mouton noir parce que l'expression le mouton noir.
Peut-être un peu des deux, sauf qu'il y avait une habitude. Moi, j'ai recensé 40 procès de bestialité. Il y avait une habitude, c'était toujours de parler de la couleur de l'animal.
Ouais.
Une vache, elle était tachetée de roux. Un chien était blanc, une jument était blanche. Il y avait toujours une façon de stigmatiser par la couleur, c'était assez amusant. Mais parmi les 40 procès, c'est très drôle parce que j'ai trouvé qu'une seule femme.
Ah.
Et en plus, une femme avec un chien, sur les 40 procès, c'était 39 hommes avec des femelles. Eh oui, il n'y avait pas encore le pack, ça, mais ça, c'était assez intéressant, parce que c'était toujours de sexe opposé. Bon, peut-être un fantasme de fécondité, à mon avis.
Ah, il y a un truc qui a bien intéressé l'homme de justice que je suis, c'est que le juge commette des experts chirurgiens
qui vont
voir le monsieur, et qui en conclut, après donc avoir examiné, je suppose, son sexe, qu'il a habité la brebis.
Absolument.
Vous n'avez pas lu cette expertise. Enfin, d'où tire-t-il la certitude qu'il a habité la brebis?
Et puis, il y avait des expertises médicales sur les femmes aussi.
Oui.
Sur les femmes, parce que là, elles étaient, évidemment, les médecins de l'époque, confirmés qu'il y avait eu sodomie.
Donc,
il fallait bien quelques petites preuves, malgré les témoins, les délations.
Oui, les expertises de l'époque valent ce qu'elles valent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une expertise assez mesurée.
Voilà, plus le pouvoir médical en place, peut-être.
Alors, le facteur aggravant pour ce monsieur sodomite, c'est qu'il ne va pas à la messe. Ça, c'est quand même dit dès le début. Ça.
Oui, il ne va pas à la messe.
Il est aussi condamné pour ça, finalement.
Oui, aussi, mais les crimes de sexualité, de bestialité, c'était vraiment une infamie totale, quoi, à tel point que il y a eu quelques archives retrouvées, moi j'ai 40 procès, mais il y en a beaucoup qui ont été perdus, parce que quand on brûlait les corps, c'était tellement infâme qu'on brûlait les corps.
Et on jetait la procédure.
Il arrivait qu'on jette aussi la procédure, c'est fini, il n'y avait plus de témoignages, il n'y avait plus rien, tout était complètement annulé. Et ça, c'est assez drôle quand même.
Merci.
Mais l'animal payait, quoi.
Merci infiniment pour ce
livre. Merci à vous.
Et pour le commentaire que vous en faites, Des animaux au prétoire de Chantal Knecht, dans la collection L'Abeille, chez Plon, un petit livre à 9 euros.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.